Mesdames, messieurs, bon midi à la tribune. Aujourd'hui, on a de nouveau une foule d'invités pour traiter d'un sujet qui concerne bien du monde. En fait, qui affecte, pour ainsi dire, tout le monde, la conduite hivernale. Il en sera question avec David Gagné, directeur du service des travaux publics de la ville de Sorel-Tracy, Marie-Michèle Pilon, porte-parole à la direction générale de la Montérégie du ministère des Transports. Christian Martin, de l'École de conduite Bouvier Conduit Pro, Valérie Beauchamp, de la Sûreté du Québec, Jasmin Bibeau, d'Autobus Bibeau, Ève Gendron-Rodier, de Déneigement Martin Villiard, David Bardier, de GMS Auto Clinique, Daniel Breton, de Mobilité électrique Canada, Stéphane Gouin, chauffeur chez Transport Villemic, Caroline Boisvert, capitaine à la Société des traversiers du Québec et Simon Berthiaume de la Société de transport collectif Pierre de Sorel. On parle de conduite hivernale à la tribune après la pause.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André-Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut. Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
La tribune. Une présentation de Meubles André-Beaulieu et de Lucie Dale Parizeau.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
La conduite hivernale nous occupe à la tribune ce midi en compagnie d'une bonne dizaine d'invités, dont le premier est directeur du service des travaux publics de la ville de Sorel-Tracy, David Gagné. Bon midi, M. Gagné.
Bon midi, M. Rochon.
Sorel-Tracy, c'est plusieurs kilomètres de route à entretenir et pour être dans le sujet, à déneiger, ça?
Oui, effectivement. Sur l'ensemble du territoire, on peut parler d'environ 225 kilomètres de rue, donc 550 kilomètres de voies si on fait x2 de chaque côté. Distance Sorel-Québec.
Il faut distance Sorel-Québec.
Ça effectivement.
Ça donne une méchante idée. Il faut départager, j'imagine, dans le cadre des opérations de déneigement, comme dans celui des opérations d'entretien, routes municipales et provinciales?
Oui, effectivement, les routes provinciales, on a des ententes avec le ministère des Transports là, pour les routes numérotées. Par contre, nous, dans notre plan de déneigement, on a des artères principales, des collectrices et les rues secondaires qui viennent par la suite.
OK. Les routes qu'il revient à la ville de déneiger sont déneigées par le service des travaux publics que vous dirigez et des entreprises qui sont à contrat avec la ville?
Oui, effectivement. La ville de Sorel-Tracy, je vous dirais, dans le plan de déneigement qu'on a fait après la fusion, on a séparé la ville en 9 secteurs. Les employés Col Bleu ont 3 secteurs conventionnés et la balance est faite par des entrepreneurs et des entrepreneurs locaux. Donc, on est fiers là, de dire que c'est des entrepreneurs locaux d'expérience et qui démontrent un peu de fierté là, au niveau des employés qui travaillent pour eux et pour nous également.
Sorel-Tracy possède une flotte importante de véhicules dédiés au déneigement, à l'épandage d'abrasifs et au déglaçage?
Ah oui, écoutez, c'est sûr que c'est pas la première année que la ville de Sorel-Tracy effectue des opérations de déneigement, ni les entrepreneurs, mais on a un bon plan au niveau de l'acquisition de machinerie. Lorsqu'il y a une opération de déneigement, je vous dirais qu'il y a au-delà de 40 équipements simultanément qui patrouillent la ville, qui appartiennent à la ville ou à certains entrepreneurs. Le tout muni de GPS, donc nos contremaîtres sont en mesure de voir l'évolution en temps réel du déneigement.
Comment on détermine, M. Gagné, les routes et les trottoirs à déneiger prioritairement? Est-ce qu'il y a des priorités?
Oui, ben, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on y va avec la logique, le débit de circulation, donc les artères principales telles que les routes numérotées, les boulevards, les collectrices. Donc, c'est eux qui ont la priorité au niveau des opérations de déneigement. Et par la suite, on rentre dans ce qu'on appelle les secteurs, les rues plus secondaires. On peut allouer environ, pour faire un parcours, parce que chaque secteur, je vous parlais tout à l'heure, donc une précipitation de moins de 15 cm, on alloue environ un délai de 4 heures. Pour revenir au point A, donc du point A au point B, là, revenir, là, on alloue environ 4 heures pour revenir sur place.
Et il y a bien sûr chez vous des veilles météo.
Oui, effectivement, chaque gestionnaire chez nous reçoit des bulletins météo 3 fois par jour, des bulletins assez précis là dans les derniers 72 heures, je vous dirais les prochains 72 heures. La ville a sur son territoire même une station météo qui a été conçue là, selon l'homologation au niveau d'Environnement Canada depuis 2006. Alors, ça aide à augmenter la précision au niveau de la météo à venir.
Et il vaut mieux s'abonner à vos alertes, suivre la ville sur les réseaux sociaux ou composer la ligne info déneigement pour pas avoir de mauvaises surprises.
Effectivement, comme on sait, la période hivernale là, du 15 novembre au 15 avril, on parle d'environ 150 jours dans cette période-là. À la ville de Sorel-Tracy, depuis quelques années, on permet même le stationnement en tout temps, sauf les 30 à 40 jours d'opération par hiver. Puis depuis quelques années, on est fier de mentionner qu'on est rendu quasiment avec 5000 abonnés. Qui sont au niveau du service des communications, qui sont abonnés aux alertes. Et il y a des alertes qui sont envoyées soit par texto, soit par courriel, la page Facebook, le site Internet, et on a la fameuse ligne info déneigement là qui fonctionne en tout temps également pour informer les gens si on est en opération le soir qui vient.
Merci beaucoup, David Gagné.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Bonne journée. Marie-Michèle Pilon est porte-parole de la direction de la Montérégie du ministère des Transports. Bon midi, Madame Pilon.
Bonjour.
Alors, c'est immense, la Montérégie. Vous devez avoir une flotte impressionnante de chasse-neige puis d'épandeurs.
En fait, oui, en Montérégie, effectivement, là, on a plusieurs équipements. Dans le secteur de Sorel-Tracy, par contre, 100% des circuits de déneigement là, dans le secteur sont assurés via des contrats qui font quand même l'objet, évidemment, toujours d'une surveillance par le ministère. Par ailleurs, la ville effectue un grand nombre là, de ces circuits-là.
On exerce, évidemment, chez vous, une veille météo constante, hein?
Effectivement.
C'est une veille météo qui permet notamment, je suppose, de procéder à de l'épandage anticipé de sel et d'abrasifs?
Évidemment, oui, il y a de la surveillance qui est effectuée en tout temps. Il y a de la planification qui est à faire. On sait par contre que aussi nos opérations d'entretien visent à limiter l'accumulation de neige et de glace, mais aussi on ne peut pas procéder trop à l'avance pour certains enduits, par exemple. Le sel, s'il n'y a pas commencé déjà à avoir des précipitations, on sait que ça peut se ramasser avec la circulation des véhicules en dehors de la chaussée, donc ils agiront plus. Évidemment, on demande à nos prestataires de services et nos équipes, nous, doivent être prêts à aller en tout temps sur le réseau en fonction de la planification qui est effectuée, la surveillance qui est effectuée là, par rapport aux précipitations et aux températures anticipées.
Est-ce qu'on emploie moins de sel et d'abrasifs qu'on en a déjà employé dans un souci de protection de l'environnement? Parce que je sais qu'il existe des éco-routes, il me semble que c'est comme ça qu'on les appelle, des éco-routes d'hiver qui permettent de conjuguer développement durable et déplacement sécuritaire.
Oui, il existe des éco-routes. Ça nous permet vraiment là, de faire l'essai de produits justement là, qui sont moins endommageables pour l'environnement. Cependant, évidemment, c'est toujours à l'essai. Donc, l'objectif, c'est toujours d'avoir un réseau sécuritaire. Qu'est-ce qu'une route sécuritaire? Ça doit être déneigé selon les exigences de déneigement qui sont assez fermes là, de la part du ministère, des glaciers aussi selon ces exigences-là. Et l'objectif, c'est toujours de s'assurer que le réseau reste sécuritaire. Donc, ces éco-routes-là, la localisation de ces éco-routes-là est choisie pour nous permettre d'être capable de faire des essais tout en s'assurant que la route va demeurer là, sécuritaire. Donc, on peut pas faire ça n'importe où. Je vous dirais que, par exemple, là, j'ai certaines données par rapport à la Montérégie, pas nécessairement au secteur de Sorel-Tracy, mais par exemple, là, en une année, en Montérégie, on peut utiliser environ 30 tonnes de sel de déglaçage, soit l'équivalent de peut-être 2 terrains de football, et près de 20 000 tonnes d'abrasifs. Donc, on parle encore une fois là, dans les mêmes eaux. Et ce qu'il faut nuancer, c'est sûr, là, c'est qu'à certaines températures, les fondants, donc la neige, ne fait plus effet. Le ciel ne fait plus effet. Donc, il faut utiliser des abrasifs à ce moment-là. Donc, on parle autour de moins 15 degrés et en dessous, on va prioriser les abrasifs ou un mélange.
D'accord. En terminant, Mme Pilon, une question du champ gauche. On a installé 2 immenses structures jaunes aux entrées du pont Turcotte. C'est pour décourager le trafic lourd de s'y aventurer? Est-ce qu'on va y ajouter de la signalisation?
En fait, oui, il y a de la signalisation qui est prévue être installée à cet endroit-là. Évidemment, là, on a constaté en 2021 qu'il y avait encore un peu de délinquance au niveau d'utilisation au niveau du passage là, des camions avec des charges sur le pont Turcotte. Donc, afin de évidemment limiter la progression des dommages sur la structure du pont Turcotte, les mesures vont être renforcées pour faire respecter les mesures qui sont déjà en place. Donc, on parle, oui, probablement de l'installation de signalisation. Les différents paramètres là, de cette nouvelle mesure-là sont toujours en discussion, mais ils devraient être précisés là, au cours des prochaines semaines.
Très bien. Merci beaucoup, Marie-Michèle Filion.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci, au revoir.
J'ai dit Filion, Marie-Michèle Pilon. Christian Martin a 35 ans d'expérience comme moniteur, instructeur de conduite automobile. On le rejoint à l'école de conduite Bouvier Conduit Pro. Bon midi, M. Martin.
Bon midi, M. Rochon.
Est-ce qu'on enseigne ça, la conduite hivernale, M. Martin, l'hiver, par la force des choses? Je comprends que oui, mais quand on suit ces cours pratiques l'été, est-ce qu'on nous apprend des notions de conduite hivernale?
Bien, c'est une des raisons pour lesquelles les cours de conduite durent 12 mois maintenant. Là, 25-30 ans, les cours étaient de très courte durée. Maintenant, les cours durent 12 mois. Et une des raisons, c'est justement d'avoir des cours pratiques en période hivernale. C'est certain qu'on est par rapport à la température, on doit se faire avec. Fait que oui, quand il y a de la neige, quand il y a de la glace, puis on est capable de contrôler le véhicule, on va donner des cours en respectant les normes de conduite sur glace. C'est certain que si la route est fermée, tout ça, ou les écoles sont fermées, bon, on n'ira pas non plus s'aventurer là, sur les routes, mais on va profiter le lendemain, tempête de neige, oui, de montrer certaines techniques de freinage, d'avoir un comportement sur, oui, la chaussée est glissante, il faut prévoir, il faut anticiper les dangers.
Alors, quel conseil élémentaire auriez-vous à nous donner là, pour accroître notre sécurité sur la route et celle des autres usagers?
Souvent, l'hiver, c'est d'avoir une vision par rapport au danger. Un traîneau qui traîne sur un banc de neige, mais peut être un signe d'enfant. Aux alentours, les intersections sont souvent glacées, puis ça paraît pas, glace noire. Fait que c'est de réduire notre vitesse, faire des distances de freinage plus longues pour nous permettre d'être en mesure d'immobiliser le véhicule sans problème.
On voit, il me semble, de plus en plus d'automobilistes dépasser là où c'est interdit, pas respecter les limites de vitesse, dépasser l'hiver alors que la visibilité n'est pas à son meilleur. Est-ce que je m'imagine ça où les automobilistes sont en effet plus téméraires qu'avant?
Ça, bien entendu, il y a beaucoup d'automobilistes qui sont plus téméraires. Moi, je dis toujours à mes élèves, l'automobile nous a appris à être en retard, on part à la dernière minute, on se donne pas de chance. Fait que c'est certain que le véhicule qui, lui, maintient sa vitesse à l'avant parce que la chaussée est glacée, peut venir nous déranger, puis on va être plus téméraire.
Ben merci, Christian Martin. Souhaitons que... On m'a dit que vous donniez plus de... que l'école donnait plus de 6000 heures de formation sur route chaque année. Alors, souhaitons que ça nous procure une sécurité renforcée.
On fait tous nos efforts pour que ça soit justement amélioré.
Merci, Christian. Christian Fortin de l'école de conduite Bouvier Conduit Pro. On parle maintenant à la sergente Valérie Beauchamp de la Sûreté du Québec. Elle est du service des relations avec les médias. Bonjour, Mme Beauchamp.
Bonjour.
Je ne sais pas si vous avez entendu mon entretien avec le précédent invité. Je lui confiais mon impression là, que les conducteurs étaient de plus en plus téméraires, nombreux à ne pas obéir aux limites de vitesse, à dépasser où c'est interdit. Est-ce qu'il existe des statistiques qui démontrent ça ou qui démontrent que j'ai parfaitement tort, que c'est une fausse impression que j'ai?
J'ai pas des statistiques précisément. Par contre, je peux vous dire qu'au niveau du bilan annuel 2021 de la Sûreté du Québec en matière de bilan routier, les principales causes sont la conduite imprudente et les excès de vitesse. Donc, si je peux vous donner un petit exemple, en Montérégie, on rapporte 40 collisions mortelles, dont l'une des principales causes est la conduite imprudente et les excès de vitesse. Et ce, c'est bon aussi pour la saison hivernale. Donc, oui, effectivement, c'est l'une des causes principales, mais également, il y a la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues, la fatigue, mais aussi l'inattention, distraction, téléphone cellulaire au volant. Mais bien sûr, les excès de vitesse et l'imprudence sur la route là, demeurent des causes principales.
Il y a un article du Code de la sécurité routière qui stipule noir sur blanc qu'un conducteur doit réduire sa vitesse lorsque les conditions de visibilité sont, je ne sais pas, moi, rendues insuffisantes par du brouillard, de la pluie, de la neige ou lorsque la chaussée est glissante ou partiellement dégagée. Est-ce que ça existe, un article du Code de la sécurité routière qui stipule ça?
Oui, tout à fait. C'est l'article 330 du Code de la sécurité routière. Si vous circulez, même en respectant la limite de vitesse indiquée sur le panneau, vous devez, en tant que conducteur, réduire votre vitesse lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie, des précipitations, ou même lorsque la chaussée est glissante. Donc oui, il y a un article prévu au Code de la sécurité routière à cet effet. Là, même si la limite est de, par exemple, 100 km/h, vous devez adapter votre conduite et votre vitesse selon certaines conditions ou critères là, de cet article.
Les automobilistes qui suivent de trop près le non-respect du corridor de sécurité, la conformité des pneus d'hiver, est-ce que ce sont tous des éléments que surveillent vos patrouilleurs?
Tout à fait, effectivement. Lors d'une intervention, d'une interception, c'est sûr que les policiers peuvent vérifier les pneus d'hiver. Les usagers de la route doivent être munis de pneus d'hiver entre le 1er décembre et le 15 mars. Donc, oui, ça fait partie d'une des choses qui est vérifiée. Il y a plein de conseils de prévention qu'on peut donner aux automobilistes lorsqu'ils prennent la route dans des conditions difficiles, dans des tempêtes. Réduire la vitesse, on en a parlé. Garder une distance sécuritaire, ça va éviter d'être impliqué dans une sortie de route ou dans une collision, de permettre de réagir rapidement s'il y a des freinages brusques devant. Je pense que la personne avec qui vous parliez un petit peu plus tôt en a parlé de ce volet-là. Mais aussi, bon, éviter toute distraction. L'hiver, le temps de réaction peut être un petit peu plus lent versus les conditions. Donc oui, il y a plusieurs conseils qu'on peut suivre là, pour tenter d'éviter d'être impliqué dans une collision. Mais aussi, c'est sûr que quand il y a une grosse tempête, vous allez voir sur le Twitter de la Sûreté du Québec, on va toujours rappeler aux gens, si vous pouvez éviter de sortir, de prendre la route, de rester à la maison, ça va être l'un des conseils les plus sécuritaires qu'on va pouvoir vous dire justement pour éviter d'être impliqué dans une sortie de route.
On a vu d'importants carambolages sur les autoroutes de la Montérégie lundi de la semaine dernière, l'un d'eux impliquant à Saint-Constant sur la 30. Je pense une quarantaine de véhicules répartis sur deux sites, là, séparés par quelques centaines de mètres. Ça n'a pas fait de blessés majeurs, heureusement, mais ce carambolage-là et les autres, ils auraient pu être évités?
Bien, c'est sûr que l'une des causes premières va rester le conducteur derrière son volant. Donc, on parle de conduite inadaptée, de réduire la vitesse. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on prévoit pas qu'il va y avoir un freinement devant. Est-ce que c'est la visibilité? Est-ce que c'est les conditions? L'accumulation de neige sur les routes, ça peut être ça. Mais si on freine brusquement et que la chaussée est glissante, ben c'est ce qui entraîne un carambolage. C'est qu'on freine à la dernière minute et puis là, ben ça s'accumule derrière et puis c'est difficile à stopper. Puis, surtout sur les autoroutes, c'est qu'on pense bon de suivre la limite, par exemple, de 100 km/h, mais de là, on revient à ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt. Peu importe les conditions, il faut adapter la vitesse. On ne peut pas rouler de la même vitesse que lorsque la chaussée elle est sèche, puis les conditions sont idéales. Les limites sont établies en fonction des conditions idéales, justement, lorsque la chaussée est sèche. Donc, bien sûr, ça fait partie des causes principales, vraiment, au niveau des comportements des conducteurs.
Valérie Beauchamp, de la Sûreté du Québec, merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci. Bonne journée. Jasmin Bibeau est au bout du fil. Bon midi, Jasmin.
Oui, Bombézy.
Vous êtes propriétaire d'une flotte d'autobus, autobus Bibo. Une flotte de combien d'autobus scolaires?
En tout et partout, 28.
Des autobus qui roulent sur la grande route dans les rangs et les quartiers urbains.
Eh oui. Ça fait plus de... Disons, moi, je suis propriétaire depuis 1992. C'est sûr que la sécurité routière, l'hiver, c'est assez spécial parce que nous, en campagne, c'est pas comme la ville. En campagne, notre plus grand défi, c'est toujours la glace, le verglas, les rangs glacés. D'ailleurs, on a déjà eu une intervention à Saint-Gérard. L'autobus avait quitté le chemin pour tomber dans le fossé à cause du vent puis de la fameuse glace, pas d'abrasif. Alors, à cette heure, nous rentrons plus dans les rangs. Aussitôt qu'on voit, on a avisé les conducteurs que quand c'est trop risqué, ils vont pas dans le rang.
Oui, alors, j'imagine qu'il y a autant de défis pour vos chauffeurs qu'il y a de contexte routier. La vitesse sur la grande route, les vastes champs enneigés qui bordent les rangs et causent la poudrerie, les rues plus animées des quartiers résidentiels. Un chauffeur d'autobus, ça lui prend les yeux tout le tour de la tête, puis une certaine autorité sur les élèves, sur les passagers.
Oui, c'est sûr qu'avec le temps d'aujourd'hui, la pandémie, tout ça, les enfants sont un petit peu plus agités, un petit peu plus nerveux. Fait que, on fait beaucoup de discipline, puis en même temps, il faut conduire avec une très grande sécurité. Mais les conducteurs en autobus scolaire, en majorité, c'est des gens, à 98%, là, c'est des gens très consciencieux et qui voient... ils voient à la sécurité. Puis on est haut, hein, on est plus haut qu'un automobile, alors on voit venir les choses un peu plus. Puis c'est ça, quand on débarque nos enfants en ville, mais c'est à coup de 5 ou 4 élèves, faut toujours attendre qu'ils soient bien rentrés dans leur maison ou éloignés de l'autobus, là. En campagne, ben, comme vous savez, on a déjà eu l'an passé presque une triste histoire là-dessus, là, un enfant qui avait traversé, mais qui c'était pas le conducteur ou ni la compagnie qui était en retard là-dedans, parce que l'enfant est en retard, puis il a voulu prendre un autre autobus, là. Mais à cette heure, c'est réglé. Le centre de service scolaire a réglé le problème.
Dites-moi, Jasmin, sur une chaussée glissante, est-ce qu'un autobus est favorisé ou défavorisé par son poids et son gabarit?
C'est défavorisé. Notre problème, c'est que le derrière, on a deux roues, ça fait quatre nœuds arrière. C'est presque un traîneau. Fait qu'il faut aller doucement, faut vraiment virer les courbes d'une façon très prudente parce que on est porté à glisser. Autant quand on freine pour embarquer des enfants, c'est à risque. Alors, faut toujours préparer, voir venir. Faut ralentir, faut aller lentement. Et c'est toujours... L'hiver, c'est sûr que c'est beaucoup plus... d'inquiétude pour le conducteur à voir ce qui arrive, pas rien. Là.
Merci, Jasmin Bibeau. C'est déjà tout le temps que nous avons pour cet entretien. Après la pause, Ève Gendron-Rodier, David Bardier et Daniel Breton.
Chez Lucie Del Parizeau, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucie Del Parizeau offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucie Del Parizeau, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucie Del Parizeau, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucie Del Parizeau, le plus important courtier d'assurance au Québec.
Vous avez à cœur votre santé et celle de votre famille? Moi aussi. Ici David Gauthier. Dans les conseils Brunet sur les ondes de CJSO, on se pose des questions, on y répond et on vulgarise toutes sortes de situations. On prend soin de votre santé de la tête aux pieds. Du contenu informatif qui est loin d'être plate. Ça vaut la peine d'être bien renseigné? Alors, soyez à l'écoute les jeudis 17h15 pendant Valérie l'après-midi.
Les conseils Brunet. Présentation de David Gauthier, pharmacien propriétaire affilié à Brunet.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucie Dale Parizeau.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
À la Tribune ce midi, on s'intéresse à la conduite hivernale. On a parlé tantôt de déneigement des rues. On va maintenant parler du déneigement de nos entrées de cours avec Ève Gendron-Rodier de l'entreprise Déneigement Martin Villiard. Bonjour Ève.
Bonjour, bonjour, ça va bien?
Oui, très bien. Vous êtes la conjointe de Martin. Il y a un bon moment que Déneigement Martin Villiard est en opération?
Oui, ça va faire bientôt 10 ans l'an prochain.
Et là, votre clientèle, c'est une clientèle de particuliers et d'entreprises, les deux?
Exactement.
Je réfléchis, Ève, au défi des déneigeurs. Nombre de clients souhaitent voir leur entrée dégagée très tôt le matin pour partir au travail, ne pas l'avoir obstruée en fin d'après-midi pour le retour au travail. Ça fait beaucoup de monde qui veut la même chose en même temps. Est-ce que vous avez une grosse équipe et il y a beaucoup de travail la nuit? Comment ça fonctionne?
Oui, effectivement. C'est certain que tout le monde veut pouvoir partir au travail et l'entrée dégagée. Dans le fond, nous, on fonctionne, on fait toujours une première tournée avant 6 heures pour que tout le monde puisse sortir le matin. On essaie d'éviter le plus possible de rouler entre 7 et 8 parce qu'il y a beaucoup de trafic, ce qui fait en sorte que ça peut rallonger notre travail. Puis, on en fait une deuxième tournée, dans le fond, avant midi. Si nécessaire, on en fait une à 16 heures et une à 20 heures.
Vous avez une grosse équipe?
Oui, on est très bien entouré. On a une belle grosse équipe. Dans le fond, on a 14 tracteurs qui roulent. Avec chacun des conducteurs, bien évidemment. Puis, on a une équipe de pelletage aussi également. Là.
Ah, parce que vous pelletez, vous ne faites pas juste là, conduire le chasse-neige. Là.
Oui, effectivement.
OK.
C'est résidentiel et commercial.
OK. Ce ne doit pas être toujours évident de disposer de la neige. Je pense aux quartiers de maisons en rangée, là, notamment. Il y a des endroits où la solution pour en disposer n'est sûrement pas évidente.
Oui, les petits terrains, là, ça peut être un défi là, qui est à relever parce que l'emplacement, à un moment donné, dans le fond, au milieu de l'hiver, là, est pratiquement inexistant.
Il faut avoir beaucoup de diplomatie, j'imagine, dans votre domaine. Vous devez avoir à composer avec une variété de griefs. T'as soufflé trop tard, t'as soufflé trop tôt. Mon voisin s'est plaint que tu mettes la neige dans sa cour. Est-ce que vous prenez des cours de diplomatie?
Non, on prend un bon café le matin et qu'on reste par là. Non, mais c'est certain que oui, on a tout... notre personnalité, puis c'est faut dealer avec ça, là, c'est comme ça. Puis il faut se mettre à la place du client. Des fois, le stress fait en sorte qu'on est un peu moins diplomate, là, c'est certain.
Est-ce que vous en conduisez vous-même des souffleuses, Ève?
Ça m'est arrivé, oui, mais c'est moins mon domaine. Je suis meilleure dans la diplomatie.
Merci beaucoup, Ève, de nous avoir accordé cet entretien. Je vous souhaite un bel hiver.
Merci, bon hiver à vous.
Merci. David Bardier de GMS Autoclinique, bon midi.
Bon midi, Sylvain.
GMS Autoclinique, c'est une entreprise familiale?
Oui, exactement, de père en fils depuis le début des années 60.
David, à quel genre d'entretien soumettre notre véhicule pour qu'il ne nous abandonne pas les matins glaciaux? Il n'y a pas que la batterie, j'imagine, dont il faut se soucier?
Non, mais... Oui, effectivement, l'hiver, c'est vraiment plus dur pour la voiture que d'autres saisons dans l'année. Sérieusement, il y aurait vraiment beaucoup de choses à parler sur l'entretien automobile en général, l'entretien l'hiver. Étant donné qu'on n'avait vraiment pas beaucoup de temps ce midi, je me suis dit, pourquoi pas faire un espèce de top 3 des choses importantes à faire attention, tu sais, qui nous donnerait un bon petit coup de pouce là, pour la voiture, je dirais. Comme le temps froid qu'on a eu dans les dernières semaines, là, c'est extrêmement dur. Et l'erreur qu'on fait tous le matin, on est vraiment pressé d'aller travailler. T'sais, on manque toujours de temps dans nos journées. On démarre la voiture et on sauve tout de suite la maison. En réalité, on devrait laisser toujours fonctionner la voiture un petit peu, quelques minutes, laisser le temps à la voiture de réchauffer, parce que c'est pas fait pour fonctionner à moins 30, une voiture. Il faut vraiment qu'elle atteigne une température de fonctionnement adéquate pour permettre surtout aux différentes huiles dans le véhicule d'atteindre leur bonne viscosité pour qu'ils travaillent bien, qu'il n'y ait pas d'usure prématurée. Puis aussi, des fois, ce qui peut arriver, on se ramasse avec des petites fuites d'huile dans notre entrée. Bien, ça, c'est occasionné par des hautes pressions, parce que justement, les huiles sont comme du miel, de la mélasse. C'est vraiment épais. Les pressions travaillent très hautes. Et là, on se ramasse avec des petites fuites indésirables dans notre entrée. Donc, pour laisser rouler la voiture, je sais que c'est pas trop environnemental comme conseil, mais je crois que remplacer des pièces, ça ne l'est pas non plus, comme on dit. Sinon, les autres choses, on oublie souvent, je dirais, le soir, en arrivant à la maison, d'éteindre nos essuie-glaces. On fait fonctionner, il neige un petit peu, de la pluie, les essuie-glaces fonctionnent. On arrive à la maison, on éteint la voiture, les essuie-glaces, eux, restent allumés. Ce qui arrive, la vitre qui est très chaude, va faire fondre tout ça, puis quand ça va refroidir, on a du moins 25 dans la nuit, ben là, ça se transforme en un beau bloc de glace dans le bas de la voiture. Puis le lendemain matin, quand on repart le véhicule, souvent même on le part avec notre démarreur à distance, fait qu'on voit même pas ce qui se passe. Et là, ça brise tout, parce que le petit moteur qui fait tourner ça, ces essuie-glaces-là, il est très puissant, mais la transmission qui entraîne tout ça l'est pas vraiment. Fait qu'on en change beaucoup des transmissions d'essuie-glaces, parce que un mauvais entretien, mauvais déglaçage des essuie-glaces.
Il reste à peu près 30 secondes pour votre troisième là, du top 3.
Le troisième, ben regarde, tu l'as dit au début, la batterie. Quand on fait booster notre véhicule, faut le faire charger. Faut faire recharger la batterie. Souvent, les gens laissent fonctionner la voiture une demi-heure, trois quarts d'heure, disent que ça va être beau, mais non. Le chargeur n'est pas un l'alternateur n'est pas un chargeur. On va l'abîmer. Puis là, ça va nous coûter une batterie et un alternateur. Donc, s'assurer de brancher ça sur un beau chargeur externe, branché dans le mur, on la recharge comme il faut et on sauve une batterie et un alternateur. Fait que c'est mes petits conseils que j'avais à donner pour l'entretien automobile.
C'est super, David. On ne peut pas ne pas parler des pneus, prendre 15 secondes, là. Pneus cloutés ou pas?
Ça, c'est au choix, comme on dit. C'est le bruit. Moi, je suis vendu des pneus cloutés parce que j'aime ça, comme on dit, quand ça mord, partir au coin de la rue puis que ça tourne sur place. Je déteste ça. Mais les gens n'aiment pas souvent le bruit que ça va occasionner. Mais c'est vraiment, on a la meilleure adhérence possible avec ça. On a des hivers de glace. Il pleut, il fait froid. Avec ça, pneus cloutés, on a la meilleure adhérence. Sinon, des très bons pneus. Il y a des très bons pneus à neige et glace qui se font. L'idée, c'est de pas négliger. T'sais, on peut s'acheter des gougounes l'été si on veut, mais l'hiver, garde dépenser, sortez votre portefeuille puis mettez des bons pneus sur votre véhicule. À part si vous servez de votre véhicule juste pour aller à l'épicerie, là c'est autre chose.
David Verdier, merci beaucoup de vos conseils.
Ça me fait plaisir, Sylvain.
Merci, salut bien. Daniel Breton a une feuille de route impressionnante, environnementaliste, chroniqueur, auteur, homme politique et a été ministre du Développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs. Il est aujourd'hui président, directeur général de Mobilité électrique Canada. C'est un des plus fiers défenseurs que le Québec connaisse de l'automobile électrique. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Daniel, est-ce qu'on peut dire que tu es un tripeux de char. Est-ce que tu l'as été bien avant la voiture électrique?
Oui. En fait, moi, j'ai une famille qui travaille dans l'automobile depuis les années 60 aux États-Unis ou au Canada. Donc, l'automobile a fait partie de mes discussions depuis que j'ai 5 ans.
Tu as signé avec tes amis Jacques Duval et Pierre Langlois des guides de l'auto électrique.
Oui, exactement. Puis, écoute, j'ai commencé à écrire mes premières chroniques sur les véhicules électriques, partiellement ou entièrement électriques, ça fait 18 ans de ça, croyez-le ou non. J'étais le premier au Canada à faire ça, puis, tu le sais, on a été collègues à l'Assemblée nationale, ça fait longtemps que je vous casse les oreilles avec les véhicules électriques.
Ah oui, t'es un chaud partisan.
Oui.
Parmi les informations qui circule sur l'automobile électrique, il y a celle de sa perte d'autonomie l'hiver. Vous allez, le 5 février, procéder à l'essai comparatif de plusieurs modèles 2021 et 2022. Raconte-moi ça. Tu as embarqué beaucoup de monde dans cette aventure-là?
Oui, en fait, on devrait être une vingtaine de personnes à participer à cet essai comparatif hivernal de véhicules électriques. Donc, des modèles qui viennent de tous les constructeurs, des moins chers ou plus chers, là, je veux dire, tu sais, de la de la modeste Chevrolet Bolt à la rutilante Porsche Taycan pour voir comment différents véhicules électriques se comportent en conditions hivernales, parce que les gens ont tendance à penser que, quel que soit le véhicule électrique, le comportement, la perte d'autonomie, la consommation, la vitesse de recharge va être la même d'un véhicule à l'autre, mais c'est pareil comme les véhicules à essence. Il y a des véhicules à essence en hiver qui sont moins bons, d'autres qui sont meilleurs, bien, c'est pareil pour les véhicules électriques.
Tu fais preuve sur ta page Facebook d'une patience que je ne t'ai pas toujours connue. non, mais on te taquine en masse. Puis Daniel, ton auto, as-tu démarré un matin? Quoi? Ton auto fonctionne l'hiver?
Oui, exactement. Ça, c'est très drôle parce qu'en fait, moi qui conduis depuis 21 ans des véhicules partiellement ou entièrement électriques, la réalité, c'est qu'un véhicule électrique, c'est beaucoup plus facile à démarrer quand il fait très froid qu'un véhicule à essence. Parce que c'est un peu comme un interrupteur pour une lumière. Ton interlocuteur précédent parlait justement de la viscosité des huiles qui peut faire en sorte que le moteur va être difficile à démarrer. Il n'y a pas ce problème-là avec un moteur électrique. Tu l'allumes, c'est tout. Tu démarres, puis tu avances. Donc, c'est beaucoup plus facile, à tel point qu'il m'est souvent arrivé, lors de différents tests au fil des dernières années, de me retrouver, lorsque les conditions étaient très froides, à survolter les véhicules à essence avec les véhicules électriques qu'on avait.
Ça, c'est une belle revanche, hein?
Oui, vraiment. Donc, oui, les véhicules électriques, évidemment, vont perdre d'autonomie, dépendant des véhicules. C'est-à-dire que on avait fait un test hivernal un peu moins élaboré il y a 2 ans avec 7 véhicules. Et puis, on s'était rendu compte qu'il y avait des véhicules en conditions hivernales extrêmes. Moi, je me rappelle, il y a 2 ans, écoute, on était en pleine tempête de neige, il faisait froid, il ventait, on voyait rien, c'était dangereux. Et certains véhicules perdaient 20 % d'autonomie, d'autres en perdaient jusqu'à 50 %. Donc, d'un véhicule à l'autre, c'est extrêmement différent. Mais la chose dont on ne parle pas souvent, c'est que les véhicules à essence aussi perdent de l'autonomie, c'est-à-dire que leur consommation augmente de 15, 20, 30, 40 % dans les conditions hivernales pour toutes sortes de raisons qui sont liées, par exemple, au fait qu'on prend des pneus d'hiver, qui consomment plus, au fait qu'on perde de l'attraction parce qu'on est sur la glace, que ce soit essence ou électrique. Les véhicules consomment plus à cause qu'on perd de traction. Puis il y a même un élément dont peu de gens parlent, c'est la densité de l'air qui, de plus 30 à moins 30, augmente de 25 %. Donc, c'est plus difficile pour un véhicule, quel qu'il soit, de fendre l'air quand il fait très froid.
Ouais. Je te cite.
Conditions-là, oui, vas-y.
Je te cite. Certains me disent parfois, je ne recommande pas cette voiture électrique en parlant d'un modèle en particulier. Quant à moi, je ne recommande aucune voiture à essence.
Oui, exactement, parce qu'écoute, on est rendu en 2022. Il y a maintenant plus d'une soixantaine de marques de véhicules, de modèles de véhicules partiellement ou entièrement électriques qui peuvent répondre à peu près à tous les besoins. Il reste, je dirais, la catégorie des pick-up. Mais ça s'en vient. Au cours de 2022, 23, 24, il y a plusieurs constructeurs automobiles qui arrivent avec des véhicules de type pick-up, partiellement ou entièrement électriques. Donc, ce besoin-là aussi va être rempli. Puis, on peut aussi parler de transport collectif. Écoute, là, le gouvernement du Québec a annoncé que d'ici 2030, 55 % des autobus urbains au Québec seraient électrifiés et 65 % des autobus scolaires. Et ça, c'est des jobs au Québec. C'est-à-dire qu'on fabrique des autobus urbains et on fabrique des autobus scolaires électriques au Québec. Fait qu'il y a aussi la question de l'environnement, tu le sais. On parle de diminuer de façon importante nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est d'autant plus frappant lorsqu'on est en hiver, parce qu'un véhicule à essence en hiver, souvent, lorsque les gens font un court kilométrage, ce qui arrive, c'est que le catalyseur n'a pas le temps de se réchauffer assez. Donc, le niveau de pollution du véhicule à essence est exponentiellement plus élevé à cause du court kilométrage. Un véhicule électrique, ben, qu'il fasse froid, qu'il ne fasse pas froid, qu'il ait roulé 2 km ou 12 km ou 100 km, le niveau de pollution reste le même. Et plus le véhicule à essence vieillit, plus il pollue parce que son système anti-pollution devient de moins en moins efficace.
Daniel Breton, merci de m'avoir accordé cet entretien.
Ça me fait plaisir.
Merci, Daniel. Après la pause, Stéphane Gouin, chauffeur de camion, Caroline Boisvert et Simon Berthiaume.
Envie de débuter l'année 2022 en beauté? Passez chez Meubles André-Beaulieu. Qu'il s'agisse de mettre à jour vos électroménagers ou de vous offrir un tout nouveau décor, nous avons ce qu'il vous faut.
Notre équipe d'expérience sera vous guider pour trouver les meilleurs produits tendance à des prix imbattables. Profitez des meilleures marques sur le marché pour rehausser toutes les pièces de votre maison et bénéficiez de la livraison gratuite dans un rayon de 250 km. Laissez-vous inspirer dès maintenant en nous visitant à notre succursale du boulevard Poliquin ou au meublebeaulieu.ca.
Vous êtes au cœur de notre succès. Grâce à vous, Paillé est toujours numéro un au Canada. Merci de faire partie de notre grande famille.
Un monde de vie, chez Paillé.
OK, OK, Paillé, Paillé.
Chez Lucier Dale Parisot, nous travaillons à trouver la meilleure façon de protéger les actifs humains et financiers de nos clients. Lucier Dale Parisot offre aux familles, aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'à ces mêmes entreprises, un portefeuille complet de solutions en matière de protection, d'assurance et de services financiers. En fait, nous sommes reconnus comme des conseillers de confiance. Avec Lucier Dale Parisot, votre tranquillité d'esprit est assurée. Lucier Dale Parisot, présent à travers la province pour mieux vous servir. Lucier Dale Parisot, le plus important courtier d'assurance au Québec. La Tribune, une présentation de Meubles André Beaulieu et de Lucier Dale Parisot.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
On s'intéresse à la conduite hivernale ce midi à La Tribune. On se tourne du côté d'un conducteur de poids lourd, Stéphane Gouin. Allô Stéphane.
Oui, bonjour.
Vous travaillez chez pour Villemic, actuellement une belle entreprise robertoise. Vous conduisez depuis combien d'années des camions?
C'est présentement ma 32e année.
Wow! Est-ce que c'était un rêve de petit gars?
Presque. Oui.
Le rêve?
Je sais que ça aurait peut-être été animateur à la radio, là,
ah!
Mais second plan de match.
On switchera à un moment donné pour voir ce que ça donne.
Oui, il n'y a pas de problème.
C'est bon, hein? Le rêve, l'hiver, se transforme-t-il en cauchemar? Vous filez comment là, quand vous voyez se lever la tempête?
Ben, relativement bien. C'est ce qui se produit, c'est de vraiment faire attention aux autres automobilistes et même parfois les autres camionneurs qui sont vraiment assez téméraires face aux conditions hivernales. On doit adapter vraiment notre conduite pour faire notre travail comme il faut. Là.
Un lourd véhicule qui tire une remorque bien chargée, est-ce que ça tient mieux la route, se cramponne mieux à la route que nos véhicules de promenade?
Je dirais que chargé, oui. Mais par contre, lorsqu'on échappe la remorque, là, ben, dans la plupart des cas, c'est fatal. Là. Comme je dirais, plus on décolle et plus on va loin, plus c'est pesant. Donc, c'est vraiment dangereux.
Oui, puis en termes d'aérodynamie, d'emprise du vent, ça doit être moins jojo que la voiture de promenade, là.
Oui, mais un peu comme pour les dérapages, là, c'est vraiment lors de chargement que ça va le mieux, là. À vide, là, c'est vraiment plus risqué.
L'anticipation, ça doit être drôlement important au volant là, d'un mastodonte. Ça ne s'arrête pas facilement. Quand ça freine brusquement devant vous, vous ne devez pas trop bien vous sentir par en dedans?
Non, pas vraiment. Puis c'est là qu'on pense aussi au chargement qu'on a en arrière de nous. Donc, c'est vraiment important de prévoir ce que les autres vont faire et anticiper et garder beaucoup de distance, ce que malheureusement les automobilistes et rarement les camionneurs vont faire, là, mais surtout les automobilistes, ils vont nous dépasser par la gauche et venir prendre notre espace de frein là, pour être sécuritaire. Donc,
OK, alors les autres usagers de la route, ils ne tiennent pas compte suffisamment de vos défis de conduite à vous?
Non, absolument pas.
Est-ce qu'on conduit de mieux en mieux, Stéphane, est-ce qu'on conduit de mieux en mieux ou de pire en pire au Québec?
Je ne sais pas. D'après moi, ça ne va pas de mieux en mieux.
mais merci beaucoup, Stéphane Gouin, et je vous souhaite un bel hiver avec les défis que ça comporte pour vous.
OK, merci beaucoup, bonne journée.
Merci, Stéphane. Caroline Boisvert est la première femme aux commandes du traversier entre Sorel-Tracy et Saint-Ignace-de-Loyola. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Sylvain. Ça va bien?
Ça va bien toi-même?
Très bien, ça. Merci.
On va régler tout de suite quelque chose. Tu ne me parles pas en ce moment à la barre du traversier, hein?
Non, pas du tout. Je suis en congé.
Tempête, glace, coriace, brouillard, condensation, visibilité réduite quand c'est pas nul. Est-ce que vous haïssez l'hiver, capitaine Boisvert?
Non, j'avais pas ça. J'ai plein de sport, évidemment, fait que c'est ce qui me fait apprécier. Mais au travail, là, ça apporte un certain challenge. Fait que pour ça, là, ça change un petit peu notre routine. Fait que non, on déteste pas l'hiver pour autant.
Quel est votre pire ennemi aux commandes du traversier? Est-ce que c'est la glace? Est-ce que c'est la neige? Est-ce que c'est le brouillard?
Là, de ces temps-ci, c'est surtout le phénomène de brume de mer qu'on a. On a des gros froids la nuit, là, ce qui fait que l'eau est plus chaude que la température. Fait que ça bouche complètement de visibilité. On tombe complètement en visibilité nulle. J'en ai eu un petit peu là dernièrement. Mais j'ai surtout là, la mention de mes collègues là, qui a fait comme 10 heures de temps en visibilité complètement nulle toute la nuit. Fait que vraiment, tu sais, je lève mon chapeau, là, mais on a des. C'est ça qui est notre plus gros ennemi. Fait qu'on est comme beaucoup de moments là, en tant que capitaine, on est ployé à 100% sur le radar, on a la tête dans un écran, puis le lieutenant, lui, il coopère en donnant les degrés de où ce que je veux qu'il s'en aille, puis avec la vitesse que je lui demande, mais c'est ça notre pire ennemi, je dirais.
Vous, comme capitaine, vous commandez et dirigez toutes les manœuvres du navire, mais vous avez aussi à superviser les activités qui se déroulent à bord. En d'autres mots, vous êtes la bosse.
Oui, c'est ça. Oui, tout ce qui se passe, là, en fait, là, tout ce qui est le chargement, en ce moment, mettons, le déchargement de la neige, le déglaçage des quais. Je supervisionne aussi souvent mon officier, si j'ai des nouveaux aussi, ça demande un cellule de surveillance. Là, comme là, on est en train de leur apprendre justement à déglacer, surtout, mettons, l'entrée du bassin à Sorel. On apprend à faire le petit ménage, tout ça, fait que ça nous amène... on a beaucoup de choses à gérer, puis on a tout l'équipage au complet, oui, là, on est 8 en tout, plus les membres qui sont dans le stationnement pour embarquer, nous aider à embarquer les voitures. Fait qu'on a tout ça, là, ce petit staff-là qu'on gère toute la journée. Là.
Quand on gèle comme des rats, ça doit pas être une partie de plaisir pour les membres de l'équipage qui sont sur les ponts pour l'embarquement puis le débarquement, c'est pas faux?
Non, c'est pas chaud, mais ils sont bien équipés pour vrai. La compagnie leur fournit des bons vêtements, fait qu'ils sont bien. C'est sûr que quand on a des conditions un petit peu plus extrêmes, ben là, on leur laisse peut-être un peu plus de pause. Là. Des fois, de temps en temps, on dit, OK, ben chaque membre d'équipage, ben on a droit à une petite demi-heure un peu plus à laisser réchauffer parce que c'est sûr que là, ça, on n'attendra pas d'avoir des engelures. Tu sais, comme la nuit, on a connu du moins 30, temps ressenti moins 40. Fait que, tu sais, on n'attendra pas non plus d'avoir trop froid, là.
Alors, on leur lève notre tuque, puis on vous la lève à vous aussi, Caroline. Merci de nous avoir accordé cet entretien.
Merci beaucoup.
Merci, salut bien.
Bonne journée.
On conclut l'émission avec Simon Berthiaume. Il est directeur général de la Société de transport collectif de Pierre de Sorel. Bonjour, Simon.
Bonjour, Sylvain.
Comment vous vous plaisez dans vos nouveaux bureaux des promenades de Sorel?
On a vraiment des nouveaux bureaux qui sont vraiment très bien construits. C'est beau. On a hâte d'accueillir notre clientèle en grand nombre. D'ailleurs, on a déjà plusieurs usagers qui sont venus dans nos nouveaux bureaux. On est vraiment bien situés.
La Société de transport collectif de Pierre de Sorel, c'est un organisme spécialisé dans l'organisation et l'exploitation du transport collectif sur tout le territoire de la MRC. Alors, transport adapté, collectif régional, collectif par taxibus et interrégional.
Exact.
Vous avez une équipe de combien de conducteurs?
On a une dizaine de conducteurs à notre emploi au niveau du transport adapté. Donc ça, c'est le transport qu'on opère nous-mêmes. Donc on est propriétaire de nos véhicules. Et dans les nouveaux services qui s'en viennent au niveau du transport interrégional, ça c'est un transporteur qui est à contrat. Donc c'est leurs employés. Ils vont avoir une vingtaine de conducteurs. Puis au niveau de nos chauffeurs de taxi, ils sont environ une quarantaine, 35-40.
Je veux vous entendre, Simon, sur les défis que vous pose l'hiver. Il y a certainement celui, les journées où c'est moins beau sur les routes, du respect des horaires.
Oui, en fait, il y a beaucoup de défis pour nous en situation hivernale. On a autant la condition météorologique, quand il y a des tempêtes de neige, comme la semaine dernière, qui nous causent beaucoup de soucis, mais aussi les froids. Donc, c'est sûr que on a les horaires qui sont problématiques à respecter. Mais on a aussi une volonté d'offrir un service, le même service qu'en temps régulier à notre clientèle, parce qu'on a de la clientèle qui voyage avec nous uniquement en cas de mauvaise température. Donc, pour nous, c'est vraiment important de mettre de l'emphase là-dessus et de leur permettre d'embarquer dans les mêmes délais. Surtout quand on a des températures comme cette semaine, là, des moins 30 degrés les matins. On ne veut pas que notre clientèle gèle longtemps sur le bord de la route. Donc, on est en phase à partir plusieurs voitures pour ça.
Parce que transport adapté, votre clientèle à mobilité réduite doit nécessiter plus d'aide des chauffeurs les journées où la neige est de la partie ou que les surfaces sont glacées?
Oui, au niveau du transport adapté, en fait, nous, on fait du porte-à-porte. Donc, on s'assure d'aller chercher notre usager à la porte de son domicile jusqu'à la porte à destination. Donc, c'est sûr, quand on a des tempêtes de neige, que les entrées privées sont mal déneigées, mais c'est plus difficile pour nos conducteurs de faire l'accompagnement nécessaire, mais aussi les gens qui sont en fauteuil à ce moment-là, parfois, il faut qu'il y ait un déneigement qui soit fait avant pour qu'on puisse bien faire notre travail.
C'est certainement pas la saison préférée des chauffeurs, hein, l'hiver.
Non, ça, je pense pas que c'est la saison préférée des chauffeurs au niveau de leur travail. Au niveau personnel, peut-être, mais au niveau du travail, c'est plus difficile. C'est plus difficile le démarrage des véhicules. Le froid prend vite. Il faut que je sois bien habillé, bien équipé. On fournit de l'équipement, mais c'est quand même un travail qui est complètement différent dans la période estivale.
J'emploie chauffeur au masculin. Est-ce qu'il y a des femmes dans votre équipe?
Oui, on a des femmes qui se sont jointes à nous depuis 2 ans. En fait, on en a 2 dans l'équipe de conducteurs.
Super. Un message aux usagers de la route qui croisent vos véhicules en terminant, Simon Bertium?
Oui, mais en fait, j'ai entendu plusieurs de vos intervenants. Là, on parle de courtoisie. C'est la même chose avec les véhicules, les autobus. On a plusieurs types de véhicules. Les chauffeurs sont sur la route beaucoup, plusieurs heures par jour. Donc, c'est difficile. Eux autres, ils ont besoin d'avoir des distances sécuritaires avec les autres voitures. Donc, on essaie d'éviter de couper les autobus, de couper les voitures de taxi, les gros autobus. C'est ça qui va éviter des accidents. On en parlait un petit peu plus tôt. Les poids lourds ont une meilleure tenue de route. Sauf qu'à partir du moment qu'il arrive un incident, un freinage rapide ou un dérapage, c'est plus possible de récupérer cette perte de contrôle-là. Donc, ça peut devenir très critique, voire fatal.
Merci beaucoup, Simon Bertillon. Merci.
Merci à vous. Bonne journée. Merci.
Merci à l'ensemble de mes invités de ce midi. Merci à Laurent Cournoyer pour l'aide à la réalisation. Mardi prochain, à la Tribune, les réseaux sociaux. Bonne semaine, tout le monde.